Et nous commençons cette émission, comme depuis le début de la semaine, par réévaluer un petit peu celle de la veille.
Débriefing.
Donc, avec notre invité du jour, ce sera lundi. Attention, ça se passe comme ceci.
En tout cas, heureusement qu'hier, on avait un invité high level.
Il était super, Serge Chalandon. Oui. Et attends, prix Médicis, prix Albert Londres, le mec.
Et prix Thierry Leluron aussi.
Ah bon, pourquoi?
Ah bah oui, écoute, quand il parle d'autorité.
La France est ce qu'elle est aujourd'hui parce que quelqu'un a désobéi.
Bah, il était à l'aise, quoi. Enfin,
j'espère qu'aujourd'hui, Macha Meryl va pas nous faire tant Yvonne.
Ah, c'était pas le seul à être à l'aise, d'ailleurs.
Ah bon?
Alex, tu crois pas que j'ai pas entendu ta blague là, pendant la chronique de Manoukian quand il évoquait les Navis?
Et ça y est, vous êtes transformé en Navis. Vous savez, les habitants de la planète Pandora dans Avatar qui vivent en parfaite symbiose avec leur environnement et qui tentent de se défendre face à l'invasion terrienne.
Et qui louent des bagnoles.
Reliés à la conscience de l'arbre.
Elle est excellente. Navis, voiture de location.
Ouais, oui. Ça, j'avais compris, mais enfin, c'est pas le souci, Alex.
Bon, cela dit, la chronique d'André était très bien sur ce chanteur américain.
Sauf qu'André, il donne des dates de spectacles improbables.
Il joue ce soir à Nashville, donc au Blue Room, pour
si on a 5 minutes.
D'ailleurs, la prochaine fois, si tu connais quelqu'un qui joue à Caracas ou Vladivostok, n'hésite pas à le dire, Alex.
Oui, mais le pire, c'est que 10 minutes plus tard, hier, on reçoit un tweet.
Vous pas me croire, hashtag par Jupiter, je suis à Nashville, merci pour la recommandation.
On est écouté dans le monde entier, voilà.
Si ça se trouve, il y a un gars à Tombouctou hier qui a ri sur ma blague avec Avis.
Non, alors ça c'est sûr que non. Hein. Bonjour la France Inter, vous écoutez une start-up émission et voici les trois sujets que nous avons choisis par ordonnance. Quand le pouvoir est au centre, où se situe l'opposition? Dans les choux? Mais pour l'instant, l'opposition vient de la gauche, les insoumis ont pris la tête de la contestation.
Ces conneries de gauche et droite, ça veut rien dire ces machins. Selon comment on est tourné, ça change tout.
La façon dont on se nourrit détermine l'avenir de l'humanité. La malbouffe bénéficie de la propagande publicitaire et de la puissance des hypermarchés. Mais pour la combattre, on peut faire œuvre pédagogique. Alors est-ce qu'il faut enseigner le goût à l'école?
L'admirable cholestérol qu'on va se payer. Ça vaut quand même mieux que des barbituriques.
À Paris, les naturistes peuvent enfin gambader la foufoune et la bistouquette à l'air. Une zone du bois de Vincennes leur est désormais réservée.
À poil la mamie, à poil la maîtresse, à poil la chanteuse, nous avons à poil le docteur, à poil le président, directeur général. Bah oui, bien sûr.
À poil les chroniqueurs, à poil l'invité, à poil Alex Vizorek.
Ah, si vous me le demandez gentiment, il était temps. Bonjour Charline Vanhoenacker. Et aujourd'hui, autour de la table, pour terminer cette première semaine de Par Jupiter, belle équipe à 17h20, le grand retour de l'enfant terrible du jingle, comme on l'appelle cet été. Il a tout donné sur l'actualité, il s'est bien donné sur la musique. Autant vous dire qu'on attend l'actualisique de Thomas VDB.
Un jingle que j'ai travaillé tout l'été, Alexandre, tout l'été. Et aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler ni plus ni moins des plus belles surprises de la rentrée télé. On va se régaler, on va se régaler.
17h30, il se remet doucement de sa rupture avec Pierre Gattaz. Et je ne suis pas certain que ce soit le plus triste des deux. Bonjour Guillaume Meurice.
Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Moi je suis allé faire un tour au stage de préparation du championnat du monde des métiers. Et oui, parce que mon métier à moi c'est quoi?
Trouver des sujets intéressants.
Et ça, c'est le cas.
Pas sûr que vous allez être champion du monde. Et à 17h40, en règle générale, elle réfléchit pendant une semaine à un sujet. Elle vient nous en parler et je ne comprends pas tout. Là, elle a réfléchi 2 mois à un sujet. Autant vous dire que le train de l'intelligence, je vais le regarder passer. Bonjour Isabelle Sorrente.
Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour les amis.
De quoi on parle?
Eh bien, je vais vous parler de zombies.
Ouais, ça va peut-être accrocher. Et à 17h55, il a triomphé cet été à Avignon. Beaucoup moins à Dax, à Béziers et à Nîmes, pour des raisons évidentes de taurophobie. Frédéric Fromet sera avec nous pour vous chanter sa chanson en fin d'émission.
De corridaphobie.
Et manifestez-vous dans un monde virtuel, sur Twitter notamment, hashtag par Jupiter. Et je me tourne vers celle que nous accueillons dans notre open space, puisque nous vivons dans une start-up nation, nous sommes une start-up émission. Alors vous tournez sous la direction d'Eric Romer, Michel Deville, Roger Vadim. Vous avez suivi les cours de l'Actor Studio à New York. À votre retour en France, Jean-Luc Godard fait de vous une actrice de la nouvelle vague. Louise Buñuel vous fait tourner dans Belle de jour. Puis vous vous installez à Rome et vous jouez pour le cinéma italien avant de travailler avec Blier, Lelouch, Miller, Varda, Enrico, Zidi et bien d'autres. Sur les planches, vous jouez aussi beaucoup, notamment Tchekhov, Rostand, Oscar Wilde. Vous devenez l'un des piliers des grosses têtes sur RTL tout en écrivant des romans, des nouvelles et des livres de cuisine. Oh, elle sait tout faire. Qui êtes-vous?
Macha Meryl.
Oh là là,
ma Wikipédia. Chapeau.
Alexis Zorek.
Alors oui, je sais tout faire.
par Jupiter.
Je suis à peu près parfaite.
C'est la magie du copier-coller.
Donc, tout est correct.
Tout est exact. Je regrette que vous n'ayez pas dit Fassbinder, Agnès Varda, des jeux. Ah, mais dans scène un peu plus.
Qu'il faut aider.
Par Jupiter.
Macha Merrill, et vous publiez un nouvel ouvrage qui s'intitule Michel et moi, paru chez Albin Michel et dans lequel Alex Vizorek s'est plongé avec délectation. C'est votre truc.
Alors, petite phrase pour commencer que je sors du livre. En politique, il y a des réflexes de droite. Moi, je pense résolument à gauche. Bienvenue sur France Inter, Macha Merrill.
Mais vous êtes au milieu, vous. Vous êtes nulle part. Un peu en équilibre.
Nous, on est étrangers, madame. Ah, on est belges, on ne se mouille pas, on observe et c'est assez rigolo.
Alors, votre livre, c'est l'inverse d'un conte de fées, puisque le mariage, il est tout au début.
Tout de suite.
On ouvre et vous vous mariez avec un certain Michel Legrand. Mm-hmm. Je raconte la suite, vous le racontez ? Non. Qu'est-ce qui serait mieux, parce que, évidemment, j'ai une question. Le mariage, c'est en 2013, vous le dites. Mm-hmm. C'est une bonne idée de se marier ? On est en 2017.
C'est l'instance la plus radicale. Il n'y a rien de mieux. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ?
Ah ben je sais pas, 4 ans
après.
Quand
on a envie de dire, on est décidé à vivre jusqu'au bout ensemble. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ? Il n'y a pas d'autre.
Oui,
alors on peut aussi, je ne sais pas, entrer dans un couvent ensemble, on peut entrer dans les ordres, on peut, je ne sais pas, se lobotomiser et faire des choses de transhumanisme. Mais je pense que le mariage a encore une vertu formidable. D'autant plus que nous nous sommes mariés religieusement, mon pote. C'est-à-dire que... Et alors, c'était compliqué, parce qu'il était catholique, et moi, je suis orthodoxe, donc je l'ai converti à l'orthodoxie, c'est malin, ça.
Parce qu'il était déjà marié catholique.
Il était marié, il ne pouvait pas divorcer. Parce que vous êtes tellement cons, les catholiques, que vous êtes...
Ah, mais ne dites pas vous, je suis pour rien.
Vous avez une tête de catholique, vous.
C'est vrai qu'il a une tête d'enfant de cœur.
C'est vrai ou pas ? On dira chérubin.
C'est pas faux.
Bon. Alors que nous, les orthodoxes, on peut divorcer deux fois. Wow. La première fois, on considère que le prêtre s'est trompé. Il n'a pas assez étudié les mariés.
Ah, c'est encore plus focus que le catholicisme.
Et donc, il fait pénitence, les mariés font pénitence, et on se remarie une deuxième fois, c'était mon cas, en blanc dans l'église. La deuxième fois, là, le prêtre, il n'est pas responsable, donc les mariés font pénitence, et on peut se marier une deuxième fois en noir, sur le côté de l'église, un peu en catimini. C'est pas mal, écoutez, franchement, c'est...
Mais c'est disruptif.
Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Oui, c'est vrai.
C'est dommage qu'il n'y ait pas une religion qui permette de se marier trois fois. Parce que ça, franchement, je trouve que c'est quand même...
Il y en a une.
On peut avoir plusieurs femmes chez les musulmans, je pense.
Bon,
trois fois en même temps.
Réagissez, hashtag Jupiter, à ce que vient de dire Vizorek.
Ce que vous oubliez de dire, c'est que j'avais 74 ans et lui, 82.
Moi, je voulais pas le dire parce que vous ne
l'avez pas. Aujourd'hui, j'en ai 77. Demain, c'est mon anniversaire. Dites bonjour, bon anniversaire.
Bon anniversaire, ma chérie.
Et lui, en a 85 maintenant.
Mais oui,
c'est-à-dire que c'est ça l'histoire.
Mais est-ce que c'est pas ça qui est chouette de se marier à cet âge-là ? Parce qu'à ce moment-là, on sait ce qu'on veut. Quand on se marie à 20 ans et qu'on dit rester ensemble, on sait pas.
Non, je vais vous dire, c'est terrible de se marier à 20 ans. Parce qu'on a tout le monde sur le dos. La société, la famille, il faut plaire à tout le monde, il faut plaire à l'autre, il faut le faire jouir, il faut en même temps réussir sa vie, il faut en même temps gagner de l'argent, il faut être propre sur soi. C'est infaisable. La preuve, c'est que ça marche pas. Tandis que nous, les parents sont plus là, les enfants sont grands qui se démerdent. On est concentré sur l'amour. Et l'amour n'est pas une affaire de jeunes. Et franchement, je suis désolée de vous dire ça. Il faudra que vous attendiez encore beaucoup tout cela, hein, parce que ce n'est pas pour vous tout de suite.
Ah, le meilleur est à venir.
C'est pour ça que j'aime les cougars, machin.
Voilà.
Je sais que ce n'est pas une affaire de jeunes. Vous déculpabilisez un peu.
J'aime pas le mot cougar, vous devriez enlever ça.
Dites-moi ce que je dois dire.
C'est un truc moche, ça. C'est un truc qui ne dit pas. Rien.
Pas toutes ?
Parce que c'est pas de chez nous. Non mais c'est vrai.
Qu'est-ce qu'on dit alors ?
On dit une femme moins jeune.
Oh mais c'est oui.
Voilà. Et puis
de toute façon,
c'est pas ça.
On dit une femme et puis c'est tout.
On dit une belle femme et puis c'est tout.
Vous vous déculpabilisez à un moment de c'est dans le début du chapitre 2, de parler de votre histoire personnelle et à un moment vous expliquez, mais il n'y a pas de raison, quand Marguerite Duras décrit ses crises avec Yann, son jeune amant homosexuel, elle a le droit de le faire, c'est de la littérature, pourquoi moi j'aurais pas droit de le raconter ? Pourquoi vous avez eu le besoin donc de vous déculpabiliser si vous pensiez ça ?
Non, c'est pas ça, c'est parce que je me suis tâtée longtemps avant d'écrire ça. Vous savez, quand on écrit, quand on s'exprime, on se demande toujours qu'est-ce qu'on va faire après ? Quel est le prochain livre ? Qu'est-ce qu'on va pondre ? Et je m'apercevais qu'il fallait que je passe, c'était un passage obligé, il fallait que je raconte cette histoire. Mmh. Parce que moi-même, j'en reviens pas. Hein. Je suis encore sur le cul de cette histoire. Sur le cul, on va en parler tout à l'heure.
Mais... si vous voulez.
Et donc, je me disais, Il faut que je me débarrasse de cette réflexion-là. Parce que écrire, c'est penser, c'est comprendre. Alors, Michel Legrand, il me disait, écoute, pourquoi est-ce que tu écris ça? Tu vas publier quand on sera mort parce que c'est pas la peine et faut vivre et pas écrire. Mmh. Et moi, je pense, je suis une fieffée intello, j'ai besoin de comprendre ce que je vis. Et donc, c'était très intéressant, ça. Parce que ça m'a fait trouver des choses. Par exemple, des petites règles universelles que je vais vous soumettre.
Oh, dites-nous. Ah oui.
Il y a trois règles absolument indispensable. Un, il faut s'admirer. Mais il faut s'admirer. C'est-à-dire que vous, les mecs, il faut admirer les femmes vraiment. Pas que dire, ah, j'aime bien les femmes,
elle est belle, elle est belle. Ça ne va pas aider. Hein.
Non, parce que c'est, en général, c'est dans ce sens-là que
il faut admirer l'autre soi-même.
Il faut l'autre.
Ah, zut, pardon.
Mais il faut s'admirer soi-même aussi. Ah. C'est-à-dire, il faut avoir une identité forte. Il faut savoir ce qu'on fait dans la vie, être content de le faire. Oui. Et être tout à fait droit dans ses bottes. Parce que sinon, si on vit de la lumière de l'autre, c'est pas bon.
Alors les deux autres.
Et la troisième chose, ça c'était la deuxième. C'était la deuxième. Un, l'admiration. Pardon. Deux, l'identité. Et la troisième chose, il faut être pareil. Il faut avoir des goûts très semblables. Il faut avoir lu les mêmes choses. Il faut avoir envie. Donc c'est culturel. Il faut avoir quand même une espèce de pâte commune qui est celle avec laquelle on va fabriquer cette nouvelle chose qui est le couple.
Donc avec Marion Maréchal, c'est foutu. Hein?
Macha Meryl.
Les tutos de Macha. Vous trouvez les sur Internet.
Ou en livre, d'ouvrage. Michel et moi, paru chez Albin Michel. Et tiens, puisqu'il est 17h19, je donne le top horaire à Nancy, où vous serez au livre sur la place dimanche.
Oh, c'est tout,
10 septembre à 16h au Palais du Gouverneur. Nous y serons aussi vendredi 17h, vendredi 8. Standing on the corner. Suitcase in my Jackson's corset, Jane is in her vest. And me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding a Studs Bearcat gym. You know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse. And those ladies, they rolled their eyes. Jack, he is a banker, and Jane, she is a clerk, and both of them save their monies, and when they come home from work, sitting down by the fire. Soldiers, all you protesters, you can hear Jack say, get rid of here. See Jack, come on, baby. See Jack, see Jack. Some people, they like to go out dancing, and other people, they have to work. Just watch me now. And there's even some evil mothers. Well, they're gonna tell you that everything is just dirt. You know that women never really faint, and that villains always blink their eyes. Ooh. And that, you know, children are the only ones who blush, and that life is just to die. Sweet Jane, Lou Reed, programmation musicale Djoubaka. Vous écoutez France Inter par Jupiter en compagnie de Macha Meryl qui publie Michel et moi chez Albin Michel, son histoire avec Michel Legrand, rencontré il y a 50 ans et marié bien plus tard.
50 ans après, oui.
Et voilà, toute l'histoire résumée. Macha Meryl, vous êtes entourée de...
Ah bien, il y a Isabelle Sorrente, absolument. Il y a Thomas VDB aussi. Et Guillaume Meurice, on ne s'en débarrasse jamais.
Et d'un journal d'information pour repartir sur de bonnes bases.
Oui, Et je suis désolé de vous dire qu'on se fout des programmes.
Le journal de presque 17h17.
Alors, conclusion ?
La conclusion, c'était d'en tirer les conclusions.
Et on commence par les titres.
Stéphane Le Foll, ex-ministre de François Hollande, a déclaré au sujet de la réforme du Code du travail, elle ne réglera pas le problème du chômage.
Et il est bien placé pour le savoir, il a eu 5 ans pour ne pas le régler non plus.
Selon Le Monde, Laurent Wauquiez s'est teint les cheveux poivre et sel il y a quelques années pour paraître plus expérimenté que les autres sarkozystes.
Petit joueur à côté d'Alain Juppé qui n'a pas hésité à s'épiler les cheveux pour paraître plus vieux.
Y aura-t-il des brèves ?
Et bien sûr qu'il y a des brèves, moi je n'hésite pas à mettre des brèves pour paraître plus drôle que les autres humoristes.
Et aujourd'hui, les musulmans du monde entier se souhaitent Aïd Moubarak, c'est-à-dire bonne fête de l'Aïd.
Alors, parlant d'Aïd Moubarak, toutes nos pensées vont à Hosni Moubarak, hein, dont l'espérance de vie est à peu près aussi grande qu'un mouton le jour d'Aïd.
Allez, politique française à présent. C'est passé un petit peu inaperçu au milieu des 22 pages de pensées complexes parues dans Le Point hier, mais dans son interview, Emmanuel Macron a mis directement en cause le Qatar concernant le financement du terrorisme.
On reconnaît bien là le supporter de l'OM qui enrage face au mercato du Paris Saint-Germain.
À droite, ça y est. C'est la fin du suspense, c'est officiel. Enfin, moi je ne tenais
quoi,
plus, Alex.
Mais quoi ?
Laurent Wauquiez a annoncé officiellement sa candidature à la présidence de Les Républicains.
On l'adore ici, machin, Laurent. C'est pas vrai. Donc il y a des gens qui vont se réveiller un dimanche matin d'automne, qui vont enfiler un manteau, ils vont prendre leur voiture pour aller déposer le nom de Laurent Wauquiez dans une urne.
Oui.
Je leur tire mon chapeau. Ça doit pas être facile d'être de droite en ce moment, vraiment.
Et donc dans le long portrait qui lui est consacré dans le journal Le Monde, on apprend que Lolo s'est teint les cheveux en poivre et sel pour paraître plus expérimenté.
Alors que pour paraître plus expérimenté, il pourrait se taire aussi. Et ça, c'est une autre solution.
Et puis, si les cheveux poivre et sel donnaient l'air plus malin, ça se saurait, n'est-ce pas, Guillaume ?
C'est pas Guillaume Meurice ! Ah, on reste à droite, avec le retour d'un autre de nos bons amis.
Une vieille connaissance, Jérôme Lavrieux.
Jérôme Lavrieux, ancien directeur de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012, connu du grand public pour son rôle dans le scandale Big Malion.
Oui, il entend se retirer du monde cruel, je cite, de la politique.
Cruel et c'est bête parce que...
Il vient de la radio ?
Déjà, se rappeler que Jérôme, c'est quelqu'un qui a un sacré flair.
François Fillon est un honnête homme, mais qu'il avait été victime de turpitudes en son nom.
Voilà, c'était bien avant l'affaire, donc il est bien senti. Que va-t-il donc faire, Charlie?
Il confesse à West France, Jérôme Lavrieux, qu'il va ouvrir des gîtes dans le Périgord à la fin de son mandat pour être au calme.
Pour être au calme. Et les maisons, il aime bien ça. Il l'avait dit à Rutel-Krieff le soir où l'affaire avait explosé.
J'ai une maison. C'est mon seul bien, que je retape tous les week-ends avec mon père, à la campagne. Il me reste 14 ans de crédit à rembourser. Moi, j'ai jamais fait ça.
Bon, c'est triste.
Me foutre du fric dans la poche.
Courage. Courage, Gégé. Macha, vous n'êtes pas une amie. Parce que vous... Non, mais non, si c'est pour se moquer des gens dans la souffrance.
C'est un truc. Vous l'avez quelqu'un enregistré,
eh
ça
bien,
c'est pas.
Non.
Mais non, c'est véridique.
C'est le soir de Big Malion.
C'était sa défense. Voilà. Sa défense sur BFM TV le soir de la.
Il y a une palme d'or d'interprétation qui se perd. Hein.
Effectivement, international.
International.
Pour la première fois, le pape François s'est confié dans un livre. Dans l'ouvrage, il affirme que pour lui, les vrais communistes, ce sont les chrétiens.
Et oui, entendant ça, Christine Boutin s'est étouffée avec son hostie.
Sport à présent.
Oui, la France a battu 4-0 hier les Pays-Bas en football et le commentateur de TF1 s'est enflammé sur le second but, une volée magnifique de Lemar.
73e minute, Thomas Lemar libère les Bleus. 2-0.
Magnifique, quelle frappe. Il est jupitérien ce soir, Thomas Lemar.
Un adjectif qu'on avait rarement entendu dans les commentaires sportifs.
Cinéma.
Oui, suite à la sortie du film Hit, tiré du livre de Stephen King sur un clown.
Oui, selon les artistes de cirque, eh bien, cela donne une mauvaise image du métier. Les vrais clowns rappellent qu'ils ne tuent pas d'enfants.
Non, et c'est bien vrai. Les vrais clowns se présentent à la présidence des Républicains.
Allez, une brève pour
terminer. Oui, des Américains se sont mis de la crème solaire dans les yeux pour regarder l'éclipse. Donc, quand on lui montre le soleil, l'idiot ne regarde pas le doigt. Non, il se fout de la crème solaire dans les yeux.
Vous êtes sur France Inter, par Jupiter, en compagnie de Macha Merrill. Et avec vous, on va aborder ce premier sujet. Maintenant que le pouvoir est au centre... centre droit, où se situe l'opposition ? Ni à droite ni à gauche, mais à la gauche de la gauche, puisque la gauche tout court est au centre. Pour l'instant, ce sont donc sur les insoumis qu'il faut compter pour lancer la contestation et construire une opposition.
Patrie, peuple, écoutez le message.
Le 23 septembre prochain, il faut que le peuple déferle à Paris contre le coup d'État social, contre le coup d'État antidémocratique.
Et oui, les Insoumis s'imposent donc en leader de la contestation avec cette manif du 23 septembre contre la réforme du travail. Macha Merrill, on a connu des décennies d'opposition gauche-droite, mais depuis que le centre-droit est au pouvoir, l'opposition, elle s'est décalée à la gauche de la gauche. Est-ce qu'il y a un petit parfum de lutte des classes? Sous quel œil vous voyez ça?
Non, d'abord, je ne comprends pas pourquoi il ne va pas le 12 septembre.
Eh bien oui, avec les syndicats.
Hein, qu'est-ce que c'est que cette histoire de faire bande à part comme ça? Puis écoutez, franchement, vous trouvez que c'est la gauche, ça?
Moi, je sais pas, c'est... Oui, d'autres questions?
Mais ce qui ne vous plaît pas, c'est les idées ou c'est le personnage, Jean-Luc Mélenchon?
Non, il n'a pas envie. Il fait ça pour mettre du poil à gratter. C'est ça que je lui reproche. On voit bien qu'il n'y a pas une vraie volonté, un vrai projet. Il imite tout le monde, De Gaulle et tout ça. Mais
il y a un projet qui est écrit quand même et qui existe. Ça s'appelle L'Avenir en commun.
Oui, ben vous l'avez lu?
Oui.
Ah ben dis donc.
Oui, a priori, vous ne l'avez pas lu du coup.
Vous êtes de gauche, on peut le dire,
Je suis macroniste quand même parce que je pense que c'est formidable ce qui se passe. Ce type est un génie. On a une chance formidable qu'il veuille faire ce métier pourri de président de la République. Il a accepté.
C'est vrai qu'il se sacrifie.
Il se met au service de la France. Chapeau. Personne ne.
C'est vrai que personne ne voulait le poste.
Ne voulait pas.
Ça s'est vu pendant la campagne.
Bon, écoutez, vous allez voir, ça va être tout mou le 12 septembre et ça va être tout mou le 23 aussi.
Vous pensez que les Français sont contents?
Je pense que les Français sont contents, fiers et ils attendent. Ils attendent quelque chose. Il n'y a rien de mieux.
Les travailleurs ne sont pas inquiets, vous pensez, quand même?
Il y a la réponse dans la question.
Non, je vous assure que non. Je vous assure que non. Parce que la réforme du travail, elle est quand même pas mal.
Non. Non, absolument pas, non, c'est la fin.
Bon, alors, on va pas parler
de ça. Vous êtes tombé chez les gauchos,
je vous le dis, moi. Social,
le plafonnement des indemnités prud'homales. Alors, ce qui est exact, ce n'est pas la solution pour le chômage. Le chômage, c'est la formation, on le sait très bien. Vous avez Jacques Attali qui a très bien parlé de tout ça, qui a expliqué.
Ah, bah, si Jacques l'a dit.
Pourquoi vous avez des.
Jacques Attali, c'est quand même un mec qui se plante depuis 1983. Ça fait quand même beaucoup d'années, quand même.
C'est-à-dire
qu'il a conseillé tous les présidents qui se sont succédés.
Il a conseillé, mais ils n'ont pas fait ce qu'il a dit.
Avec les résultats qu'on sait, quoi.
Non, il n'a pas conseillé, ils ne les ont pas suivis. Non. Bon, écoutez, on ne va pas faire la pub de Jacques Attali. Non. C'est pas de ça qu'on parle.
Non.
Mais
c'est suffisamment rare dans cette émission pour qu'on prenne le temps de la faire.
Ce que je veux dire, c'est que je ne crois pas que c'est la solution miracle, la réforme du Code du travail, mais je pense que c'est donc la formation et on sait toutes les autres volets. Mais il faut faire quelque chose. Il faut desserrer tous ces nœuds et toutes ces barrières pour secouer le muscle français.
Le muscle français. Donc voilà pour ce sujet où effectivement l'opposition s'est décalée, le pouvoir s'étant décalé lui-même, on a une nouvelle opposition qui est à la gauche de la gauche.
Bah quand le PS a cessé d'être de gauche, du coup, il y a une nouvelle gauche qui a pris la place.
Effectivement, et voilà,
la
c'est comme ça que ça se passe.
Horreur du vide.
Vous soulevez les épaules. Ouais, alors on a bien compris. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui pensent comme vous.
Beaucoup de gens.
Mais oui, plein, évidemment.
Beaucoup.
Pas nous, mais
trop.
Plein.
Oui, mais faut bien que vous amusiez un peu.
Évidemment. Macha Merrill, à vos côtés, il y a Thomas VDB, c'est son grand retour aujourd'hui.
Non, vous n'êtes pas en train de rêver. C'est une chanson qui est bien une version au piano du générique des Bronzés font du ski. Je l'ai trouvée sur Internet. Quand je suis tombé dessus, je me suis dit ça pour la rentrée, ça sera un générique pour ma chronique du vendredi d'Actualisique.
Bonjour à tous les auditeurs et toute l'équipe. Quelle joie de vous retrouver sur scène.
Je chante bien.
Ah oui. Hein, vous parlerez de moi à Michel Legrand. Alors moi, je suis très ému. Je suis très ému d'aborder le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Pour rien vous cacher, j'ai presque été ébranlé en apprenant cette nouvelle. Au début, j'ai même cru un canular. Je vous dis franchement. Alors ça va, tout le monde est bien assis. Bon, je vous le dis, je vous le dis, on va bientôt avoir un épisode qui va fusionner les univers des deux séries Camping Paradis et Joséphine Ange-Gardien. Wow. Bon, voilà, je l'ai dit. Peut-être j'ai besoin de laisser quelques secondes pour digérer cette information. Je vois ma chamérie qui frémit comme ça. Alors j'en vois peut-être faire la fine bouche. Vous allez me dire, c'est pas très France Inter comme actualité, pardon. Mais connaissant aussi la règle mathématique selon laquelle moins par moins, ça fait moins. Je ne sais pas si vous imaginez le niveau du scénario. Alors c'est vrai qu'il suffisait
d'y penser, il suffisait d'y penser. Mélanger des séries entre elles. Imaginez, je sais pas, par exemple, vous êtes en train de regarder un épisode de Louis la Brocante, et il est sur un vide-grenier, et à un moment, il entend combien là pour la table basse. Il lève les yeux, et là, c'est Nestor Burma. Bam, le génie des scénaristes. Alors, je reviens quand même un petit peu à ça. Joséphine Ange-Gardien, évidemment, c'est avec Mimi Mati qu'on ne présente plus. Camping Paradis, c'est la série avec Laurent Ournac, qui est un comédien d'ailleurs qui a perdu, c'est étonnant quand même, 30 kilos en 3 ans. Et c'est stupéfiant, parce que j'ai remarqué une chose, c'est que de voir combien, en ayant perdu 30 kilos, il ressemble comme deux gouttes d'eau à l'humoriste français Mustapha Elatraci. Alors, l'avantage de Mustapha Elatraci, c'est que s'il veut savoir à quoi il ressemblera si un jour il prend 30 kilos, il n'a qu'à regarder une photo de Laurent Ournac il y a 5 ans. Alors, en tout cas, c'est pas la première fois, évidemment, que TF1 mélange les univers de deux séries. Certains avaient peut-être déjà vu des épisodes de quand ils avaient croisé la série Julie Lescaut avec la série Madrange. Voilà, qui était vraiment... Voilà, j'en parlais avec Thomas Bidgain, d'ailleurs.
Ah non, j'ai le jambon.
Ben, la série sur le jambon. Il y avait une belle utilisation des astuces narratives. Il y avait un vrai storytelling. Évidemment, toutes les chaînes de télé, aujourd'hui, leur emboîtent le pas. À commencer par M6, qui lance ce mois-ci section de recherche d'appartements. Voilà, dans laquelle eh bien, Stéphane Plaza enquêtera sur un meurtre pendant qu'il fera visiter des appartements. Et le mois prochain, on pourra commencer à suivre des rencontres amoureuses de couples dans les territoires hautement pollués de Tchernobyl et Fukushima avec l'émission L'amour est dans la zone interdite. Alors tandis que sur France 2, l'émission Stade 2 couvrira elle des matchs de free fight entre responsables socialistes et députés de La République en Marche. Alors en tout cas, quand deux séries décident de fusionner comme ça, c'est difficile de pas voir l'influence de la politique d'Emmanuel Macron, hein, qui mélange avec le même talent des idées de gauche et politiques de droite. Mais c'est vrai que le mélange des genres, c'est à la mode. Les hommes politiques aujourd'hui deviennent tous chroniqueurs politiques à la télé. Jean-Pierre Raffarin, très drôle chez Laurent Delahousse. Oh, j'en rigole encore. Aurélie Filippetti sur RTL. Vous allez me dire pourquoi pas Mathieu Delormeau à l'Assemblée nationale ou Henri Guénaud sur Sud Radio. Alors vous allez me dire oui, Henri Guénaud est déjà sur Sud Radio, mais il se trouve ça lui va bien. Il a un style, il a une verve, voilà, il aime les insultes. Pour moi, c'est une sorte de Pierre-Emmanuel Barré, mais de droite. Voilà, en tout cas, j'avoue que moi-même, je me verrais bien au gouvernement. Bah, un petit poste, peut-être pas trop prétentieux. Alors, du coup, en ce moment, je lorgne un peu les annonces, on sait jamais.
Il n'y a plus d'emploi aidé,
j'en prends bonne note, merci. Mais il faut savoir qu'habituellement, j'ai un peu la même coupe de cheveux que Nicolas Hulot. Alors, je me dis peut-être pourquoi pas. Voilà, je fais passer l'annonce, s'il y en a qui écoutent. Merci à toi.
Merci Thomas, VDB. Bravo. Vous auriez pu faire porte-parole de Macron, dans le fond.
Ah oui, tiens, pourquoi bah oui. pas, je vais lui demander.
Bah, c'est une option.
Il y a bien Bruno Roger Petit, donc a priori, c'est open bar.
En attendant, vous pouvez lire Michel et moi, c'est paru chez Albin Michel, de Macha Meryl. Et Macha, vous serez aussi au Théâtre de la Ville de Saint-Malo le 7 février 2018. Eh oui, on peut déjà acheter les places, j'imagine. Oui. Eh bien sûr, Théâtre de la Ville, Saint-Malo, pour La Légende d'une vie de Stéphane Zweig. Vous serez avec Nathalie Dessay, qu'on salue, et Gaël Giraudot. En attendant musique, on est ensemble jusqu'à 18h. On va parler d'un thème que vous aimez beaucoup, la bonne bouffe.
Slow down.
chante Hands. Vous êtes sur France Inter, une start-up émission de l'incubateur France Inter. Macha Merrill est avec nous et à côté de vous, il y a Guillaume Meurice.
Oui, c'est vrai.
Qui aime le débat, il aime le débat.
J'aime ça. Et pas que, je vais vous parler d'apprentissage aujourd'hui. Il y a un grand patron qui adore ça, c'est celui de Veolia. Antoine Frérot, il l'a dit au micro de Léa Salamé cette semaine. Léa lui a demandé, comme il aime ça, s'il avait incité ses enfants à être eux-mêmes apprentis. Et on sent qu'au championnat du monde de mec à l'aise, il va avoir du mal à accrocher le podium.
Non, je ne l'ai pas fait parce que, étant brillant à l'école, l'un voulant être médecin, l'autre, peut-être ma dernière le sera d'ailleurs apprenti, mais en études supérieures. Le problème ne s'est pas posé.
Voilà, le fameux problème d'avoir un gamin qui se salit les pattes pour pas un rond. Hein, on sent que c'est pas la bonne réponse. Hein. Même lui, il le sent. Hein. On a quand même un aperçu de ce qui se passait dans la tête du capitaine du Costa Concordia quand il s'éloignait du bateau. Alors, je vous parle championnat du monde et d'apprentissage aujourd'hui, justement, parce que je me suis rendu au stage de préparation de l'équipe de France des métiers en vue de l'Olympiade des métiers qui aura lieu à Abu Dhabi dans un mois, où vont s'affronter donc les meilleurs jeunes artisans du monde entier dans plein de domaines. Alors on se dit, oh bah c'est sympa comme initiative, c'est plutôt cool. Et bien je vais vous dire, cool, c'est pas exactement le bon mot.
Équipe de France, excellence en couleur, bleu, blanc, rouge, nos valeurs, union, passion, détermination, pour la victoire, tous ensemble, France, ville, France.
Et ça vous calme bien vos races, j'ai l'impression. Alors là, s'il y avait le PDG de Veolia, là, il fait une descente d'organes direct. Des chèques devant Salamé, il faisait pas le fier.
C'est les femmes qui font des descentes d'organes, pas les mecs. Écoute,
franchement. Ah, faudrait que je prenne des cours d'anatomie.
Mettez-lui des petites claques derrière la tête.
Allez,
des erreurs.
Bon, tous ensemble, en tout cas, World Kill France, hein, vous avez appris, c'est le nom de la compétition. Une compétition qui se prépare de manière, qui se prépare, quoi.
Tôt le matin jusqu'à tard le soir, nous on s'entraîne, c'est notre devoir. Déterminé, on s'est préparé. Notre but, c'est de gagner.
Alors, c'est l'équipe de France, hein, quand même. Hein. On va falloir quand même attendre un peu. D'habitude, dès qu'on peut gagner un truc, ça nous fait peur. C'est le syndrome Arnaud Butch, comme on l'appelle. Également, Bayrouite chronique, on appelle ça. Mais bon, ils étaient là, ils étaient bien présents, nos jeunes espoirs.
Moi, je suis dans le fraisage.
Fraisage, ok.
Ouais.
C'est qui vos principaux concurrents, alors? Qui sont les meilleurs fraiseurs du monde?
En fraisage, c'est... Vraiment, la Corée sont très très forts. Les Chinois.
La Corée du Nord ou du Sud?
Du Sud.
Oui, parce que c'est du Nord, ils ont d'autres spécialités. Tout du moins, les dirigeants, hein, ils sont plus sur la coiffure, vous avez remarqué. C'est pour ça qu'ils veulent se bastonner d'ailleurs avec Trump. Hein. Ils se battent pour la coiffure la plus merdique du monde. Le 21e siècle sera balayage raté ou ne sera pas, comme l'a dit le philosophe Jean-Louis David. Alors, des coiffeurs, il y en a qui participent d'ailleurs à la compétition. Il y a des menuisiers, des stylistes. Il y a aussi des gens du BTP, ceux qui bossent dans le béton armé. Alors, qui sont leurs concurrents à eux?
C'est l'Allemagne et l'Autriche. Mais après, ça nous fait pas peur pour autant. Quoi,
voilà. Béton armé, j'aurais dit les Israéliens, moi, comme ils construisent beaucoup de murs.
Mais... Non, mais c'est les Français qui travaillent là-bas.
Ah ben voilà, oui, je me disais, on est toujours dans les bons coups, chez Netanyahou, chez Bibi, hein, comme Macron l'a appelé cet été. Le gars, il dit que la colonisation est un crime contre l'humanité et il fait pote avec Netanyahou. La prochaine étape, il roule des pelles à Philippe Martinez, il fait la trottinette avec Isabelle Sorrente. Tout est possible dans ce monde qui considère donc qu'il est plus utile de mettre des gens les uns contre les autres plutôt que des gens les uns avec les autres, n'est-ce pas?
On n'est pas là pour s'aider avec les uns les autres. Quoi. Nous, on fait notre truc de notre côté, les autres, ils font ce qu'ils veulent, mais on n'est pas là pour les aider. Quoi.
Est-ce que c'est pas dommage, ça?
Au jour d'aujourd'hui, c'est toute notre vie les Olympiades, donc on peut pas se permettre de... Enfin, ceux qu'on a en face de nous, quoi, c'est pas nos copains. Quoi.
Et voilà, ils sont pas venus pour déconner, les gars. J'espère que le patron de Veolia a écouté cette chronique tout en se paluchant devant les ordonnances qui défoncent le code du travail. C'est vrai qu'ils ont tellement mis profond à tout le monde que ça s'appelle d'ailleurs maintenant le god du travail. Ouais, ben voilà, je suis un petit artisan aussi moi-même de la blagounette. Et si le patron de Veolia veut continuer à dire des conneries, hein, je lui conseille de laisser sa place aux artisans que nous sommes autour de cette table pour la connerie. Comptez sur nous pour l'excellence, ou plutôt comme on dit là-bas...
Comptez sur nous pour l'excellence.
Merci, Guillaume Meurice.
À votre service.
Et si vous n'y étiez pas allé, on n'aurait pas su tout ça.
Et bah non, bah non, bah non, bah non, bah non. Et on va suivre la compétition qui est vraiment dans un mois.
C'est d'ailleurs, on n'y serait pas allé.
C'est vrai. Macha Meryl est avec vous et le god du travail, ça lui a beaucoup plu. Et c'est ce deuxième sujet avant la chronique d'Isabelle Sorrente. Un sujet qui c'est votre cam aussi, ça, la cuisine, la bouffe, le goût. C'est un sujet puisé dans l'hebdomadaire Marianne, cette semaine, qui nous dit qu'il faut enseigner le goût à l'école. Alors Nicolas Hulot organise des états généraux de l'alimentation, car la façon dont on se nourrit va décider de l'avenir de l'humanité. Alors que faire pour ne pas devenir des crétins alimentaires? Exemple.
Qu'est-ce que c'est que cette marmite, Olivier?
C'est une marmite de riz complet. On en a assez des repas pourris que vous nous faites bouffer depuis des années. Alors à partir de maintenant, dès qu'on verra un aliment massant dans cette maison, on jettera la poubelle.
Vous avez jeté le repas à la poubelle?
On a jeté le foie gras, parce que c'est le foie malade et toxique d'un animal qu'on a torturé. On a jeté la côte de bœuf, parce que les bœufs, ils sont piqués aux antibiotiques et aux hormones, et qu'ils mangent que des pilules chimiques. On a jeté tous les alcools, parce qu'on supporte plus les fins de repas où tout le monde dit des âneries, dit les conducteurs avec les yeux pas en face des trous. On a jeté le gâteau parce qu'il contient que des sucres, des graisses et des microbes, une vraie usine à caries.
Si vous voulez mourir à 50 ans de sclérose en plaques, de cancer ou de crise cardiaque, c'est votre problème. Mais nous, on ne mangera plus comme ça parce qu'on veut pas vivre comme des bêtes malades. On veut vivre longtemps et en bonne santé.
Le père de Guillaume Meurice nous a donc donné quelques enregistrements d'époque.
Extrait du film La crise de Colin Serrault. Et l'expression crétin alimentaire, c'est une formule de l'essayiste Jean-Paul Brighelli qui est citée dans l'article de Marianne intitulé Est-ce que l'école doit apprendre le goût aux enfants? Alors, cette première question, Macha Meryl, vous qui vous écrivez des livres de cuisine aussi, mm-hmm. vous avez.
J'aime participer à l'école du goût. Avec Robuchon, on allait, il y a un certain nombre d'années, 3-4 ans, 5 ans, 10 ans, on allait dans les quartiers défavorisés et les enfants ne savaient pas reconnaître la différence entre le chocolat et le café, entre le sucré et le salé, et croyaient que les poissons, c'était des petits trucs qui poussaient dans les arbres. Non, sans blague. Ce qu'il faut enseigner, c'est des connaissances, qui sachent qu'est-ce que c'est que les légumes, qui connaissent les noms des légumes et qu'on leur montre comment tout ça marche. Oui. C'est ça que je trouve qu'il faut enseigner. Le goût, les malheureux, il faut qu'ils subissent ce que l'agroalimentaire nous fournit. Hein. Ils sont comme nous, ils sont aussi
victimes que nous. Et si on les éduque
et alors après, si à la maison, ils ne peuvent pas manger les choses merveilleuses qu'on leur fait goûter à l'école, qu'est-ce qu'ils font? Il faut surtout leur accroître les connaissances. Il faut qu'ils soient curieux de ce qui se passe. Parce que vous savez, quand on écrit des livres de cuisine, ce qui est génial, c'est qu'il faut savoir beaucoup de choses. La météorologie, l'histoire, la géographie, la chimie, la géologie... Plein de choses. Parce que c'est ça qui est formidable dans la cuisine. C'est que c'est la somme de toutes les activités humaines.
Mais on peut manger bien, facile à concevoir et pas cher.
Oui, on peut. On peut. On peut, il faut savoir. Voilà. Il faut avoir des connaissances. Et il faut savoir, il ne faut pas acheter 36 trucs. Tu achètes une carotte, une aubergine. Mais tu l'achètes. Moi, j'avais ma belle-mère qui m'a appris à faire la cuisine, qui était italienne, mon ex. Elle regardait comme des bijoux les légumes et les fruits sur l'étal des magasins et elle ne les touchait pas et elle en achetait une tomate.
La question que pose Marianne, c'est est-ce que c'est à l'école aussi d'apprendre ça ou finalement c'est une manière pour les parents de se déresponsabiliser? Parce qu'on pense au départ c'est les parents. Vous, votre père était ingénieur agronome, il s'occupait d'une ferme au Maroc d'ailleurs. Oui. Et vous dites à l'âge de 5 ans, j'étais nourrie de légumes engraissés au fumier d'âne. Aujourd'hui, les enfants qui vivent dans les villes, etc. Ouais. C'est les parents, c'est l'école, c'est les deux. Comment on
c'est
fait
pour ça le problème. C'est peut-être nous, c'est peut-être vous. C'est-à-dire, il faut effectivement leur donner l'idée de creuser un peu, de savoir qu'est-ce qu'ils mangent et d'où ça vient.
Qu'est-ce qu'il y a dans le pot de Nutella?
Exactement.
Mais ça pourrait pas être un devoir. On rentre chez soi, on doit faire un peu de maths, et on doit aussi faire une recette le soir chez soi, et ça fait plaisir à tout le monde.
Mais en plus, ça apprend le calcul, les proportions, etc.
Il faudrait déjà que la maman cuisine un peu et qu'elle achète pas les plats préparés pleins de gluten et de.
Et oui, car la maman cuisine pendant que le papa travaille, bien évidemment.
Sa maîtresse, je sais pas où.
Mais donc c'est donc un enjeu politique et un enjeu d'avenir. Donc c'est un article dans Marianne de Péricolégues qui dit on a confié à la publicité et aux hypermarchés l'éducation alimentaire de nos enfants. C'est pas Isabelle Sorrente qui va nous dire le contraire, non?
Oui, c'est un peu déprimant, effectivement. C'est-à-dire que
même si on éduque au goût les enfants, est-ce qu'on va avoir les bons produits disponibles
mais
facilement?
Voilà, c'est ça le problème. Ouais.
Perico Ligas qui nous a confié sa compagne sur France Inter.
Ah, c'est vrai. Alors que
elle va faire des ravages.
Vous pouvez la garder le week-end, il n'y a pas de problème.
C'est Natacha Polony.
Oui, d'accord. Oui, parce que j'ai pas les références people. Donc,
moi non plus. Okay. Alors, Macha Meryl.
C'est moi.
Face à vous, il y a l'intelligence supérieure de cette émission.
Oh là là, mais arrêtez les amis, vous me stressez.
Bah, comme ça, vous faites bien votre petit devoir.
C'est pas un exploit. Hein.
Isabelle Sorrent.
Alors donc moi, pour cette rentrée placée sous le signe du dynamisme et de la lumière.
C'est pour ça que vous m'avez invitée, c'est ça?
Oui, Macha, parce que je vous admire profondément. Mais c'est pas moi qui vous ai invitée, mais j'ai une grande reconnaissance à Charline de vous avoir invité aujourd'hui. Eh bien moi, je persiste donc à sonder les eaux troubles de notre imaginaire, parce que un peu de pénombre dans un monde surexposé, eh bien ça repose les yeux. Et la question que je me suis posée cette semaine, c'est qui sont les zombies? Et pourquoi sont-ils de plus en plus nombreux dans nos fictions où les zombies croissent et se multiplient et se déplacent en horde, toujours aussi abrutis et voraces? Pas plus tard que cette semaine, dans le dernier épisode de la saison 7 de la série Game of Thrones, une armée de centaines de milliers de morts a commencé à déferler sur les royaumes des Sept Couronnes. L'univers de fantasy moyenâgeuse du Trône de Fer a donc rejoint celui de Walking Dead, autre série bien connue, à croire qu'un zombie, ou mieux une horde, ou mieux une armée de morts-vivants, plus il y en a mieux c'est, une armée de zombies reste le meilleur allié du succès économique. Du reste, George Romero, le réalisateur de La Nuit des Morts Vivants, hein, donc le premier film culte de zombies qui était sorti en 1968, il a avoué volontiers dans les interviews qu'il avait d'abord cherché à tourner un film avec un budget limité. Son problème, c'était à la fois celui du créateur et de l'investisseur, hein, problème qu'on connaît bien tous autour de cette table. Et la réponse à cette double contrainte, créativité et rentabilité, a été, je vous le donne en mille, le zombie. Mettre en scène des zombies, ça ne coûte pas cher. Ça peut fonctionner avec un peu de maquillage, sans trop d'effets spéciaux, ni comédiens chevronnés. Parce que vous l'avez remarqué, un zombie a faim. À part ça, il ne semble pas éprouver d'émotions particulières, même quand on lui crève un œil ou qu'on lui arrache un bras. Le jeu d'acteur reste maîtrisable. Un zombie qui a faim peut être interprété par un figurant qui a faim, contrairement à un vampire par exemple. Le zombie n'est pas une star, il n'est jamais seul en scène où son absence d'intelligence finirait par lasser. C'est une horde, George Romero parlait d'une masse informe revenue d'entre les morts. L'avantage de la masse informe dans les films de morts vivants, c'est que la bêtise des zombies, leur voracité et leur résistance au plan intelligent des humains justifie ce sadisme qui réjouit tant le spectateur. Qu'on les brûle, qu'on leur crève les yeux, qu'on leur arrache les membres et qu'on les abatte en masse. Et c'est là, dans l'abattage de masse, que le zombie prend toute sa dimension. Pas étonnant que le film de Romero soit sorti en 1968, comme je le disais tout à l'heure, soit 6 ans après la sortie de Silent Spring, le printemps silencieux, le livre de Rachel Carson sur les effets des pesticides sur l'extinction des oiseaux, qui fut à l'origine du mouvement écologiste. Il y a un lien entre la masse informe et ce que nous appelons le vivant ou la matière vivante, comme si les êtres autres qu'humains n'étaient que de la matière. Un lien entre l'armée des zombies et la disparition des espèces. Enfin, ça n'est que mon avis. Un lien entre les zombies et les millions d'animaux, une masse informe que nous abattons sans regret mais non sans cruauté, après les avoir gavés d'antibiotiques ou de fipronil. Pour Homer, les oiseaux, ce sont les esprits des morts. C'est intéressant, hein, il y avait aussi le film d'Hitchcock, Les oiseaux, 62, je crois, à peu près. La masse des espèces disparues commencerait-elle à nous hanter? Les zombies auraient-ils quelque chose à dire sur la planète? Bien possible, hein, lorsqu'on entend Jon Snow, donc l'un des héros de Game of Thrones, supplier les souverains d'oublier leur rivalité, parce que la vraie catastrophe, c'est l'armée des morts, c'est-à-dire la mort de leur environnement. Pour les convaincre du danger, il leur amène, Jon Snow, hein, un mort vivant dans une petite casse, et il leur montre que c'est vraiment très grave. Alors, je ne sais pas s'il faudra aller jusque-là pour convaincre Donald Trump que plus on est vorace, moins on est vivant.
Isabelle Sorrente, merci pour cette démonstration.
Ça, on le fait en fin de semaine, comme ça on part tout le week-end avec la réflexion. Et le lundi matin, on va piger.
Bon, en fait, j'aime bien les films de zombies.
Ce que vous n'avez pas ajouté, c'est qu'il y a pas peur. C'est une escalation qui fait pas peur.
Oui.
Tous ces personnages et toutes ces apparitions sont de moins en moins effrayants. Et donc, les enfants, les jeunes, ils sont habitués à tout ça, comme si c'était les dessins animés d'avant, ou les, je sais pas quoi, la mythologie, le Minotaure, ou je vois. Ça fait pas peur. C'est fait partie du papier peint,
dans la chambre. C'est juste. Ce troisième sujet avec vous, on passe du coq à l'âne vers le bois de Vincennes, dont une zone est dédiée aux naturistes. Sachez qu'elle est située à proximité de la réserve ornithologique du bois de Vincennes.
On voit les petits oiseaux.
Voilà, c'est une expérience pilote qui s'achèvera le 15 octobre avec les premiers frimas, mais qui est destinée à être renouvelée éventuellement. La nouvelle a déclenché une vague d'indignation chez les propriétaires de balais dans le cul, qui fantasment énormément sur cette affaire.
J'ai lu dans un journal qu'à Copenhague, au Danemark, ils avaient fait l'amour en public sur une moto.
Sur une moto ?
À l'arrêt. Ah bon. La fille s'accrochait au guidon et toc. Après, ils ont fait la quête. Des vrais animaux, je vous dis.
Michel Garlet-Bru dans Quelques messieurs trop tranquilles de Georges Lautner. Macha Meryl, vous avez déjà testé, vous, le naturisme à poil macha ?
J'ai tourné un film sur le naturisme. C'était TF1. Ouais. Vous vous rappelez de ce film qui a eu un succès fou ? Écoutez, j'étais la seule à avoir eu le courage de mon âge à se mettre à poil pour tourner. Et donc,
c'était il y a combien de temps, Macha ?
Il n'y a pas si longtemps.
On me fait des cadenets. Ok, très bien.
Mais alors, je ne comprends pas ça, parce que d'abord, ils sont vraiment remarquablement laids, ces culs, hein, quand on voit la photo.
Oui, mais ça, c'est pas le principe.
C'est épouvantable.
C'est vraiment tout le monde peut.
Mais c'est lié au soleil. Alors, je ne comprends pas le bois de Vincennes. Si c'était, nous, quand on a tourné, c'était une île à côté de Levant, par là-bas, où il y a des naturistes. Ça, je peux comprendre qu'on ait envie de bronzer sans marque du maillot et sans marque du t-shirt du Marcel. Ça
c'est
se
pas
justifie.
Plutôt un état d'esprit qu'un bronzage nickel.
Pas la bronzette,
se reconnecter à la nature, disent-ils.
Oui,
il y a des jours où il fait beau au bois de Vincennes.
Se connecter, il a quand même des chaussettes et.
Non, c'est vrai, c'est que, je sais pas.
On ne le dit pas assez.
C'est une zone de liberté gagnée à Paris ?
Non, c'est.
Ça vous paraît anecdotique ?
C'est des zinzins, ça. Ils sont sympathiques. Ils sont gentils, mais.
Allez, c'est réglé. Dernier sujet suivant.
En tout cas, pour nous réconcilier avec les naturistes, c'est les derniers parisiens à ne pas détester complètement Anne Hidalgo, puisque maintenant ils peuvent y aller à l'air. Macha Meryl, qui vient. Alors, on va vous présenter qui vient d'entrer dans ce studio.
Regardez, il est derrière vous. Il est venu avec sa guitare et tout habillé. C'est Frédéric Fromet. Une fois par semaine, il vient nous chanter l'actualité. Alors, Frédéric, de quoi allez-vous nous chanter ?
Bien, ayant passé tout l'été à bouffer des œufs au fipronil, voici une déclaration d'amour à l'industrie agroalimentaire. Quand je vois tes œufs, je les trouve dégueux. Quand je bouffe chez toi, j'ai comme des renvois. Quand je vois tes poulets, ça me fait gerber. Quand je bois tes sodas, ça me fait le foie gras. Et c'est là mon drame, car tu as tant de charme avec tes additifs, tes huiles hydrogénées. Qu'est-ce que tu traficotes quand tu fais la papote avec plus de chimistes que de cuisiniers. Mais tu m'impressionnes, souvent je frissonne devant tes crèmes glacées que tu remplis d'air. Tu en connais un rayon pour nous prendre pour des cons. À quand le paquet de chips saveur pomme de terre? Quand je vois tes œufs, je les trouve dégueu. Quand je vois tes pizzas, je cours au Wawa. Quand je vois tes biscuits, je perds l'appétit. Quand je vois ta tambouille, je vois que des magouilles. Ta confiture de fraises, confectionnée sans fraises, dans laquelle tu voudrais que je trempe des nuggets. Merci pour la dioxine, tes bons becs à la gélatine et tes escargots de Bourgogne, d'Europe de l'Est. Toi et tes produits light, y a quelque chose qui m'épate. Pourquoi vendre du mercure additionné de poisson ? Quelle saveur exquise, tu nous fais des surprises. Dans tes antibiotiques, j'ai retrouvé du jambon. Quand je vois tes œufs, je les trouve dégueux. Quand je vois ta charcuterie, voilà que je vomis. Tes barres chocolatées me donnent la nausée. Quand je vois tes escalopes, t'es qu'une belle saleté. Miam miam les pesticides, miam miam les fongicides. De toute façon, tu n'es pas là pour nourrir les gens. Miam miam les nitrates, miam miam les polyphosphates. Ton seul but étant de faire de l'argent. Pas l'ombre d'un scrupule. cellule jusqu'aux nanoparticules et une autre rime en hule qu'on devine aisément. Des aliments transformés, des petits plats préparés sont pas faits pour être mangés, mais pour marcher dedans. Quand je vois tes œufs, je les trouve dégueux. Tes allégations santé me font rigoler. Quand je vois tes œufs, je les trouve dégueux. C'est tellement crado qu'on dirait un McDo. Bon appétit.
Merci, merci Frédéric. Merci. Une réaction, ma chamérine, ça,
j'ai
ça vous plaît
de...
Ah, d'aller au Wawa.
Oui.
C'est vrai. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure.
Tout à fait. Voyez,
c'est exactement ça. C'est l'illustration.
Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il faut rien acheter, rien manger.
Une poule. Qui
moi
faire
j'ai
des
un
œufs.
Poulailler alors.
Ah ben voilà,
ah,
qu'est-ce
que
tu
veux que je te dise. Eh ben oui. Bien sûr. Frédéric Fromet, vous allez retrouver samedi avec Guillaume Meurice.
Qu'est-ce que vous allez
à
faire
à Breil, dans la vallée de la Roya.
Avec car, Didier Super.
Voilà, avec ouais. Didier Super qu'on salue. Vous allez faire un spectacle pour soutenir Cédric Héroux qui lui-même soutient les réfugiés.
Exactement.
Et qui leur donne un petit coup de main pour passer la frontière quand il faut. Quoi,
et
les
pour
héberger,
les aider une fois
les
qu'ils
aider.
Les ont passés. Pour deux associations qui s'appellent Roya Citoyenneté et Habitat Citoyenneté.
Voilà, donc allez-y, parce que il paraît qu'il est éventuellement question d'annuler.
Alors, la préfecture fait pression, les identitaires sont pas très contents, il y aura du flic un petit peu partout, mais
donc,
on sait pas si on va se faire taper dessus par eux.
Mais non,
ou
mais
si
non,
on
nous protège. Plus vous êtes nombreux à y aller, moins il y a de chances que ça s'annule. Donc, on y va et on aide, on soutient Cédric Héroux. Macha Meryl, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. C'était un plaisir.
Je suis contente d'être là.
Merci, c'était partagé avec nos auditeurs aussi. Michel et moi, c'est votre dernier ouvrage paru chez Albin Michel.
C'est pas Albin. Michel et moi.
Oui. D'ailleurs, Albin et moi est en préparation.
Votre magnifique histoire avec Michel Legrand. Et vous signez à Nancy, donc au Livre sur la Place, dimanche 10 septembre à 16h au Palais du Gouverneur. Allez-y également. Merci à toute notre équipe, à l'équipe technique et l'équipe qui fait cette émission. Et voici le mot de la fin en perspective du week-end, d'une pensée pour ceux qui vont déjeuner chez mamie dimanche midi.
L'admirable cholestérol qu'on va se payer. Ça vaut quand même mieux que des barbituriques.